Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de commencer la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton. Nous sommes ensemble pour 2h en direct. Et vous pouvez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média avec cette question. Et si la trajectoire terrible de Loana, bimbo emblématique de la télé-réalité, était symptomatique du sexisme de notre époque et de celui de la télévision en particulier. C'est la thèse de Paul Sanfourche qui lui consacre un ouvrage érudit et très bien informé. Il l'a rencontré 3 fois et il sera avec nous. Puis nos invités, Karine Baste-Régis, la journaliste de Télématin, propulsée aux commandes du 20h de France 2 pour toute la semaine. Elle est désormais joker officielle d'Anne-Sophie Lapix. Elle commence ce soir. Enfin, le chanteur Daniel Lévy, la voix de la comédie musicale Les 10 Commandements, il revient pour un nouvel album, Grâce à toi. Il revient de loin, d'un cancer qu'il aurait pu ne jamais terrasser. C'était avant le Covid et pourtant, beaucoup de titres sont dédiés au personnel en première ligne, vous l'entendrez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler des audiences avec vous. Bonjour Antoine Genton.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Les audiences auront peut-être un peu de retard. Alors
je
commence
vous confirme,
par vous,
c'est lundi matin.
Antoine,
c'est un peu
lundi
plus
matin.
Long.
Oui,
faut se
mettre
en route. Non, mais c'est les vacances. C'est les vacances.
Ah, ça y est, je vous les donne dès que je peux lire le fichier. On va commencer par le journal.
Voilà, au sommaire de votre journal des médias alors, Antoine.
Une série qui disparaît, des petites phrases décortiquées et une nouveauté au Parisien, c'est un nouveau cahier.
Alors on commence ce journal avec la fin emblématique d'une série de TF1.
Profilage, série policière créée en 2009, il n'y aura donc pas de 11e saison contrairement à ce qui avait été évoqué. TF1 l'a confirmé à Culture Média. Cela dit, la chaîne prépare une nouvelle série policière avec les deux créatrices de Profilage, Fanny Robert et Sophie Le Barbier. Son titre, c'est Vise le cœur au casting Claire Keim et Lannick Gautry.
Karine Lemarchand annonce le tournage d'une nouvelle émission pour M6.
C'est un prime qui devrait voir le jour dans quelques mois, d'après l'animatrice. Elle a expliqué sur son compte Instagram commencer à tourner ce programme nommé Transgenre et il s'intéressera donc aux personnes transgenres. Son objectif, essayer de faire évoluer le regard des gens sur ce qu'ils méconnaissent, écrit Karine Lemarchand.
Et puis un documentaire sur les petites phrases, documentaire ce soir sur LCP.
Oui, vous savez, ces courtes phrases prononcées par les femmes ou par les hommes politiques, des phrases qui restent, qui leur collent à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock. Ils aimeraient bien s'en débarrasser, mais impossible. Eh bien, elles font l'objet d'un documentaire en 2 parties diffusé sur LCP. À chaque fois, 2 petites phrases d'un des 4 derniers présidents de la République. Et ce soir, notamment, ces quelques mots d'Emmanuel Macron.
Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir.
Oui, oui.
Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées.
Voilà, c'était sur Europe 1 en septembre 2014. Le chef de l'État venait d'être nommé ministre de l'économie. Illettré, le mot est resté. Autre petite phrase analysée ce soir, celle de François Hollande sur les 100 dents. Phrase que rapporte Valérie Trierweiler dans son livre « Merci pour ce moment ». Hollande, Macron, deux présidents unis par leur histoire commune, mais hostiles, très opposés selon le réalisateur du documentaire Thomas Raguet.
François Hollande, c'est quelqu'un qui a toujours mesuré ses propos en public, qui n'a jamais justement cédé facilement à la petite phrase, alors que Emmanuel Macron, lui, en a fait sa marque de fabrique. Ça nous a paru intéressant justement d'observer l'évolution de l'un puis de l'autre et de mettre en comparaison leurs deux styles. Le parler vrai pour Macron, une sorte de parler cash, un petit peu comme Nicolas Sarkozy, et le style beaucoup plus en rondeur, en sourire parfois avec François Hollande, qui malheureusement pour lui s'est fait piéger par une petite phrase complètement privée et non pas déclarée devant micros et caméras.
Le documentaire permet surtout de donner la parole à ceux qui étaient visés par ces petites phrases et qui en ont souffert. Les habitants de la Goutte d'Or, d'Argenteuil, là, on fait référence à Jacques Chirac et à Nicolas Sarkozy, ou encore les ex-salariés des abattoirs GAD, là, pour Emmanuel Macron. Donc, l'occasion de demander aux réalisateurs quelle place ont les petites phrases aujourd'hui.
Il y a une parole qui s'est un petit peu libérée, un ton qui est peut-être devenu aussi un peu plus agressif, avec des formules parfois blessantes. Ça existait déjà avant, on le montre avec la fameuse phrase sur le bruit et l'odeur de Jacques Chirac ou avec les formules choc de Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, elles se sont certainement multipliées du fait de la multiplication des canaux d'information et des réseaux sociaux et de Twitter où les échanges se font maintenant en permanence. et aussi, je pense, à cause d'un durcissement des positionnements politiques des uns et des autres.
Thomas Raguet, le réalisateur de Petite Phrase, Grande Conséquence. La deuxième partie de ce documentaire est diffusée ce soir. La première, c'était lundi dernier avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Rendez-vous à 20h30 ce soir donc sur LCP. Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Jean-Pierre Gracien.
Du changement dans les pages du Parisien.
Il y a un nouveau cahier central ce matin, le Grand Parisien. Clin d'œil au Petit Parisien, l'un des journaux les plus populaires de la Troisième République. Il remplace les 9 cahiers départementaux distribués jusqu'ici avec le quotidien. Désormais, il sera identique dans tous les départements où le Parisien est distribué. L'idée, explique la direction, est d'approfondir les sujets qui intéressent le plus, les transports, l'immobilier, le patrimoine culturel notamment. Pour justifier cette évolution, elle explique par ailleurs que l'info très locale n'apporte pas suffisamment d'audience et donc d'abonnement, et que ce sont les informations à vocation régionale qui intéressent le plus.
C'est ce qu'avait fait le Parisien pendant le Covid. Les initiatives pour la jeunesse se multiplient dans les médias.
Après Europe 1 qui a lancé son opération Europe 1 solidaire la semaine dernière, une opération qui continue, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site europe1.fr. C'est au tour de Virgin Radio, sa petite sœur, d'aider les jeunes qui se sentent abandonnés en pleine crise sanitaire. Nouvelle émission quotidienne à partir de ce soir, de 21h à minuit, aux commandes pour un mois au moins. Robin Bernot et Jeanne Delafont, une psychologue, ils parleront à tous ceux qui les appelleront pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes.
Et puis le retour probable d'une série culte.
Fou détective et ce générique envoûtant, la chaîne HBO travaille à une 4e saison. C'est ce qu'a révélé son directeur des contenus au site américain Deadline. 4e saison pour laquelle il devrait y avoir un nouveau showrunner, le créateur de la série Nick Pizzolatto, qui a écrit ou co-écrit les 3 premières saisons, ne devrait donc pas revenir.
Merci beaucoup pour ce journal, Antoine. Je me tourne vers vous. Ça y est, elles viennent de sortir du four. C'est
bon.
Tout chaud, tout
on
frais.
Va y arriver.
Louise Bernard, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors, c'est TF1 qui est large leader avec le film Mon Poussin, une comédie avec Isabelle Nanty et Thomas Olivares, qu'on voit décidément partout. 3 724 000 téléspectateurs, 16,3% de part d'audience. Ensuite, c'est M6 avec Capital, acheter et vendre d'occasion. 2 749 000 téléspectateurs, 12,5% du public. Puis le film de France 2, seulement en 3e position, L'embarras du choix, une comédie romantique avec Alexandra Lamy et Arnaud Ducré. 2 640 000 téléspectateurs, 11,2% de part d'audience.
Ça, c'était pour hier soir et samedi soir.
The Voice, sur TF1. 5 900 000 téléspectateurs, 27,3% de part d'audience. Un leader, mais en baisse quand même de 400 000 téléspectateurs. C'est quand même un bon score. Hein. France 3, juste derrière, en forme avec son téléfilm policier Les Mystères de la Chorale. 5 600 000 téléspectateurs. Loin derrière vient ensuite France 2 avec son divertissement Les Grosses Têtes. 2 300 000 téléspectateurs.
Ouais, c'est même pas la moitié. Merci beaucoup, Louise Bernard. Merci beaucoup, Antoine Janton. On vous retrouve
demain
pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour avec un focus sur Loana. Loana Petrucciani, première star de la télé-réalité française. Son personnage est violemment critiqué et malmené depuis 20 ans à travers les médias. Pourquoi cet acharnement ? Analyse avec Paul Sansfourche, journaliste et auteur du livre Sexisme Story.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Connaissez-vous son nom ? Connaissez-vous le nom de la première star de télé-réalité en France ? Son prénom, tout le monde le connaît, Loana. Mais son patronyme, presque personne. Eh bien, c'est l'un des constats qui ont poussé un journaliste d'investigation à s'intéresser à celle qui a remporté la première émission de télé-réalité française, Love Story. C'était en juillet 2001, il y a près de 20 ans donc, 20 ans que les médias, et certains plus que d'autres, se nourrissent du personnage Loana, celui d'une bimbo, désirée, critiquée et malmenée. Un personnage qu'elle a en partie créé, que la télé a repris et que la presse a entretenu et façonné. Bonjour Paul Sansfourche.
Bonjour.
Le journaliste, c'est vous. Vous avez notamment travaillé pour la rédaction d'Envoyé Spécial et vous venez de publier ce livre sur Loana, à la fois enquête et analyse sociologique. Ça s'appelle Sexisme Story. C'est sorti aux éditions du Seuil. Le sous-titre, Loana Petrucciani. Petrucciani, voilà son nom. Pourquoi était-il important de l'écrire, ce patronyme, en couverture ?
Bah déjà parce que moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur cette enquête, j'ai découvert son nom. C'est-à-dire que je suis allé sur Google, j'ai tapé Loana et j'ai trouvé son nom de famille que je ne connaissais pas et je me suis dit mais c'est extrêmement significatif. Voilà déjà un premier élément de mon enquête.
C'est significatif de quoi ?
Bah de cette chosification dont elle a été évidemment l'objet et c'est pas d'ailleurs réservé qu'à Loana. Hein. Si on prend dans les années 2000, il y a aussi Laurie, Jennifer. Voilà, c'est vraiment un classique de l'industrie du spectacle, du divertissement, de réduire une artiste à son prénom. Et
ça vaut que pour les femmes parce que je veux dire qu'il y a
Jean-Édouard Duloft et il y a Vianney, on n'a que son prénom.
Alors, il y a effectivement certaines personnes qui ont ce concept-là, mais je veux dire, c'est quand même plus une tradition qu'on a imposée aux femmes, et effectivement, toujours comme une sorte de marque, en fait, plus qu'un nom, ça devient une marque.
Même en politique, on dit Ségolène.
C'est vrai.
Alors qu'on dirait jamais François pour Hollande.
C'est vrai.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'histoire de Anna Petrucciani, justement ? Pourquoi
tout
ce sujet ?
Tout simplement parce qu'un jour, je tombe sur une citation de Daria Marx, qui est une militante féministe, et qui se demande justement, elle dit, voilà, à 20 ans, Loana, c'est la femme dite parfaite, les mensurations parfaites, et elle est extrêmement critiquée pour son corps. Et puis, 20 ans plus tard, à 40 ans, elle devient obèse, et à nouveau, on la fustige pour son corps. Et elle dit, bah, effectivement, c'est l'incarnation que les femmes ont toujours tort. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement symbolique, extrêmement représentatif, en fait, finalement, des femmes et du sort réservé aux femmes. Et ça moi-même renvoyé à mon propre sexisme. Quand j'avais 16 ans et que je regardais Loft, j'avais ressenti une vraie charge, je dirais, émotionnelle en regardant les images du Loft et notamment la piscine.
Une charge érotique même, dites-vous.
Complètement. Et j'avais absolument... Ça a complètement inhibé toute mon empathie, toute mon envie, en fait, de connaître Loana. Je n'ai plus vu que cette scène, que ces images-là, et ça a complètement occulté toute la personne qui est derrière.
Loana, vous l'avez rencontrée 3 fois, longuement, vous racontez son enfance, son adolescence, vous décrivez la manière dont elle s'est construite psychologiquement, physiquement. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour elle, quand elle démarre dans la vie, si j'ose dire ?
Alors, elle naît dans une famille, il y a sa mère, son père. Hein. Son père est un personnage violent. Il y a un contexte de violence conjugale, il y a un contexte de violence intrafamiliale, c'est-à-dire qu'il est aussi maltraitant envers Loana. Et ça va être une enfance complètement bafouée. Elle grandit aussi dans son adolescence face à un père qui la rabaisse en permanence sur son physique, qui la traite de prostituée. Donc, évidemment, c'est extrêmement compliqué de se construire une identité tout court, une identité femme aussi. Et elle va complètement retourner cette éducation-là, et c'est ça aussi qui va lui permettre cette sorte d'ascension qui se joue avec Love Story.
Oui, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit féministe ou non, Loana Petrucciani, d'un point de vue médiatique, c'est d'abord un corps, vous le dites, elle a retourné ça, un corps svelte, des seins refaits, des cheveux blonds décolorés, des lentilles de couleur, corps qu'elle a construit, qu'elle choisit, et qui sera son viatique médiatique.
Oui, je pense qu'effectivement, cette enfance où son corps a été bafoué, rejeté, à l'inverse, elle s'est dit « mais je vais me servir de tout ce qu'on a conspué chez moi pour en faire un objet de pouvoir ». Et c'est ce qu'elle a fait. Et effectivement, son modèle, c'est Pamela Anderson. On est en pleine année 90, alerte à Malibu et partout sur les antennes, et c'est un succès mondial. Et elle va se construire en se disant « voilà, il y a un modèle féminin de réussite, il est accessible, il faut se donner les moyens, je vais me construire et je vais avoir ce corps ». Voilà.
À l'époque, c'est le modèle dominant. Vous dites quand elle se construit, mais elle est une totale inconnue. Elle est gogo danseuse sur la Côte d'Azur. Et puis soudain, elle se fait connaître en participant à l'émission Love Story. On va entendre le générique. Là, c'est pour vous donner votre petite Madeleine. Vous avez 16 ans, vous êtes dans votre chambre d'ado et vous regardez Love Story.
Ouais.
Pourquoi Loana décide-t-elle d'y participer ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ?
Alors, en fait, d'ailleurs, c'est pas la seule. Hein. Tous les candidats le disent. Ils pensaient vraiment participer à une sorte de tournée manège. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission de TF1 des années 90. Donc voilà, une émission de rencontre. Et c'est au fur et à mesure des castings qu'on leur a dit, bon, non, en fait, ce sera vous serez enfermé dans un loft, vous serez filmé 24 heures sur 24. Donc, à l'origine, il n'y a pas cette volonté forcément de briller. C'est-à-dire que pour les lofters, c'est absolument impossible d'anticiper l'énorme succès que ça va devenir.
Ils ne savent même pas ce que vous racontez, ils ne savent même pas à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur. Vous parliez de la scène de la piscine qui est une scène emblématique, iconique. Eux-mêmes ne savent pas que cette scène a été diffusée et que les gens dans la rue le savent, ils ne connaissent même pas la notoriété qui les attend.
Alors ça, je pense que c'est d'ailleurs ce que vivent n'importe quelle personne qui ont été filmées sur un laps de temps un peu long. On finit par oublier complètement les caméras et évidemment, ils étaient complètement tenus au secret dans cette maison.
Ouais. Elle entre dans le loft et elle est celle dont les médias parlent le plus. Pour quelle raison ?
Alors, clairement, déjà dans le choix d'Endemol, ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont repéré Loana, ils savent qu'elle a un potentiel médiatique extraordinaire. Quand ils la repèrent, ils pensent tout de suite à Marilyn Monroe. Ils se disent, voilà, effectivement, il y a cette dimension comme ça, iconique, évidemment corporelle, parce que le casteur qui la repère va directement le soir même la voir danser à Nice et il est subjugué de voir comme le public, en fait, est subjugué par Loana. Il se dit, mais c'est fabuleux, c'est ce que les gens vont faire devant leur télé. Donc c'est pour ça aussi qu'elle crève l'écran.
C'est elle qui gagne Love Story, elle remporte 1,5 million de francs, c'était en francs à l'époque, 250 000 euros, notoriété importante, comment elle le vit ? Alors, ça se passe plutôt bien quand on vous suit. Ben, elle gagne de l'argent, elle pète pas encore les plombs, pour dire les choses de manière un peu triviale.
Alors, je crois que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet énorme succès, cette espèce de boost d'ego qu'on pourrait tous connaître quand on accède effectivement à une sorte de succès médiatique. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement fragile, et ça depuis le début. Et moi, j'ai discuté notamment avec son biographe, celui qui a coécrit Miette à l'époque, Jean-François ouais. Kervéhan, il raconte des scènes de détresse. Elle est dans une grande villa à Saint-Tropez, elle est en pleurs, il y a une montagne de cadeaux qui viennent de fans de toute la France entière, mais ça n'empêche pas qu'elle est effectivement extrêmement fragile.
Et puis il y a une affaire dans l'affaire, puisqu'on découvre pendant qu'elle est dans le loft qu'en fait elle a donné naissance à une petite fille, Mindy, je ne me souviens plus de son prénom, qu'elle a abandonnée à la DAS. Et là c'est complètement dingue, puisqu'elle-même ignore qu'il y a ça. Et quand elle sort du loft, elle dit « Vous allez faire quoi maintenant ?» Alors que toute la France est au courant qu'elle a une petite fille, c'est la une de tous les journaux, elle dit « J'ai envie d'aller caresser mon chien ».
Voilà, alors effectivement, pour elle, c'est absolument impossible de se mettre à la place du public. C'est-à-dire qu'elle, elle vient de passer 2 mois dans un loft enfermé. Elle sait que l'information est sortie dans la presse, ça, la production l'a averti. Mais elle ne peut pas s'imaginer de l'énormité du scandale et de l'énormité de la stigmatisation, hein, puisque toute la presse, là, s'attaque à ce que j'appelle la figure de la mauvaise mère, de figure abandonnante. Et donc, effectivement, le soir de la finale, elle ne peut pas penser qu'il faut absolument sortir un laïus vis-à-vis de ça. Donc, elle ne se méfie pas, en fait.
Il y a une vie après cette vie, elle va faire des affaires, elle va faire parfois des bonnes rencontres, parfois des mauvaises rencontres, parfois elle va gagner beaucoup d'argent, et puis d'un coup, rise and fall, elle va retomber, elle est toujours sur la scène médiatique maintenant. Mm-hmm. J'aimerais bien avoir votre regard sur ce qu'est devenu Loana Petrucciani. Paul Sanfour, ça s'appelle Sexisme Story, on continue dans Culture Média à en parler.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est signé Sexisme Story, c'est sous-titré Loana Petrucciani, c'est Paul Sanfourche qui a écrit ce livre, il est journaliste et il s'est intéressé à Loana Petrucciani justement en lui donnant son nom de famille. En quatrième de couverture, vous écrivez « En moins de 20 ans, la star éphémère a pu multiplier les tentatives de comeback et de suicide, sombrer dans la dépression, succomber à toutes les addictions. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, elle suscite au mieux l'indifférence, au pire, la moquerie. » Vous l'avez rencontrée 3 fois, l'ai-je dit, à plusieurs reprises et longuement. Dans quel état d'esprit était-elle quand elle vous a rencontré ?
Alors moi, quand je l'ai vue déjà dans la ville, je dirais, à Vence, hein, c'est pas un secret, où elle vivait à ce moment-là. Maintenant, elle est à Paris. Et elle était, je dirais, vraiment en très bonne forme, voilà. Très lucide, extrêmement capable de revenir sur son parcours. C'est quelqu'un qui a une vraie connaissance du jeu médiatique. Et ça, c'est passionnant de l'écouter.
Et je dois le dire, parce qu'on voit le cliché de la blonde et cervelée bimbo, c'est tout sauf une idiote. Elle a 130 ou 140 de QI.
Oui, alors ça, c'était une information.
Est-ce vrai, est-ce faux?
Ouais, je dirais que je ne sais pas si c'est important de se prononcer là-dessus, mais c'est ce que la production avait fait savoir, effectivement, à ce moment-là, quand elle était dans le loft. Ouais.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout sauf une idiote quand
on
lui parle.
Oui.
Vous dites que Loana Petrucciani intègre le fait que désormais son métier, c'est d'exposer son mal-être. Et le dernier exemple en date, c'était mardi dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste. On est sur C8 avec Cyril Hanouna.
Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool le matin au réveil, ben moi je prenais de la drogue au matin au réveil.
Tu prenais quoi ?
De la cocaïne.
C'est-à-dire donc le matin au réveil, tu te réveillais ?
Et je prenais un trait, ouais, jusqu'au soir.
Loana Petrucciani considère que participer à ces émissions, c'est son métier, c'est un métier dangereux psychologiquement, est-ce qu'elle en a conscience ?
Elle a conscience de tous les dangers, mais voilà, c'est quelque chose d'intégré, d'accepté. Elle l'avait dit notamment face à Pascal Clark sur France Inter il y a quelques années. Son métier, effectivement, ça fait partie. Ça comporte le fait d'accepter finalement que quand on aille mal, on s'intéresse aussi à elle, qu'on l'expose par des photos, par des articles qui ne sont pas très élogieux. Mais pour elle, voilà, ça fait partie du jeu.
Question terrible. Alors, est-ce qu'elle pourrait continuer à exister médiatiquement si tout allait bien dans sa vie ?
Je pense que oui, parce que en fait, Loana, elle communique sur ce qu'elle est et la manière dont elle se comporte, la manière dont elle est, c'est ce qu'elle met à l'antenne. Donc, si elle va mieux, elle communiquera là-dessus et je pense qu'il n'y aura aucun problème et qu'elle reste extrêmement populaire malgré tout.
Alors, je l'ai dit, vous avez rencontré Loana Petrucciani à 3 reprises et puis tout cela s'est arrêté. Elle vous a tourné le dos. Que s'est-il passé ?
On avait avancé, on avait fait 3 entretiens effectivement assez longs, et puis elle avait envie d'un peu plus de droit de regard sur le livre. Parce que moi, je n'étais pas forcément opposé du tout à ça. Je voulais simplement, je voulais la mettre en garde, qu'elle ne pourrait pas réécrire le livre, parce qu'effectivement, là, ça ne pourrait plus être un livre journalistique. Et il y a eu une sorte de quiproquo qui a interrompu la communication. Moi, j'ai continué mon enquête parce qu'elle m'avait dit simplement qu'elle souhaitait ne pas continuer les entretiens. Elle n'avait pas dit d'arrêter le projet. Et je me suis dit que sans doute, on arrivera à renouer un peu plus tard. Et c'est ce qui s'est passé sur la fin, où là, vraiment, moi, j'avais avancé sur mon projet. J'étais beaucoup plus au clair aussi sur ce qu'il y allait avoir dans le livre. Et donc, voilà, je lui ai envoyé un long mail qui exposait en détail tout le projet de livre. Et effectivement, sa confiance est revenue à ce moment-là.
Je vais aller sur le projet de ce livre, justement, ce que ça sous-tend. Loana, c'est l'incarnation de la bimbo. Et à ce titre, vous écrivez, elle révèle une oppression politique à large échelle. Que voulez-vous dire par là, Paul Sanfourche ?
Alors, les bimbos, elles arrivent dans un contexte historique extrêmement précis. C'est les années 90. Il y a des décennies déjà de matraquage de la presse féminine, du monde de la pub, du show business, pour contraindre le corps des femmes. Il faut qu'elles soient minces, il faut qu'elles soient blondes, il faut qu'elles soient jeunes. Et les bimbos, elles vont révéler quelque part cette oppression-là en disant, bah, voilà, on nous dit qu'il faut être comme ci, comme ça. Nous, on va aller encore plus loin que les canons. On va se percher sur des talons immenses, on va se faire opérer pour gonfler nos poitrines, on va se faire de la chirurgie esthétique sur le visage pour rester éternellement jeune. Et donc c'est en ça que je trouve qu'effectivement il y a quelque chose de très fort, un acte de construction du corps, hein, do it yourself un peu, pour dire voilà, écoutez, c'est ce que vous avez voulu, nous, on va jusqu'au bout.
Mais vous le voyez comment ? Parce que souvent en ayant lu votre livre, je me demandais, vous la voyez comme une victime ou est-ce que vous voyez que c'est elle qui mène le jeu ?
Je pense que comme tout le monde, elle mène parfois le jeu, parfois elle subit. C'est propre, je dirais, c'est pas propre à elle. C'est le cas général. Et elle est surtout tout le temps en réaction, en fait, aussi par rapport. Elle sort du loft, elle est ultra connue. Il faut composer avec cette médiatisation. Comment on fait une fois qu'on a cette image-là ? Donc voilà, il faut surfer, il faut continuer à voguer, quoi qu'il arrive.
Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, ce qu'on pressentait, ce qu'on savait un peu, mais là, ce qu'on voit vraiment concrètement, c'est qu'elle a énormément souffert. Loana Petrucciani, elle a été battue par son père, par les hommes avec qui elle vit, avec qui elle a vécu. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Il y a même des viols. Elle le raconte, elle le dit, et même elle a une manière de le dire à vous, d'une manière complètement détachée.
En fait, Loana, elle est au carrefour de tout ce dont on parle aujourd'hui pour les femmes et pour les violences qui sont faites aux femmes. Elle a été effectivement victime de violences conjugales, de violences intrafamiliales, de cyberharcèlement, de viols. Et elle a développé ce que beaucoup de survivantes ont développé, c'est une forme de détachement face à ces horreurs-là qui est, je dirais, presque innée. Hein. C'est pas évidemment un choix, c'est juste comme ça. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique qui inhibe en partie les souvenirs. Et effectivement, elle peut raconter des choses qui sont extrêmement dures avec un détachement total.
On sait que la parole se libère. Elle ne porte pas plainte pour les viols ? Ce n'est pas son intention, vous avez parlé de ça avec elle ?
Elle ne souhaite pas revenir sur ces épisodes-là, c'est-à-dire qu'elle ne retire rien, parce que c'est arrivé, elle le dit, mais elle ne souhaite pas en parler, elle veut mettre ça derrière elle, et je crois que ça se respecte aussi.
Elle le sous-entend même qu'il s'est passé cette chose-là et que ça s'est écrit à demi-mot avec son père.
Oui, tout à fait, mais voilà, c'est encore même chose, elle ne souhaite pas revenir là-dessus, et c'est son choix de passer à autre chose.
Est-ce qu'elle partage votre vision féministe ?
Non, c'est pas sa grille de lecture, elle le dit, on en parle dans le livre, je lui pose la question sur le fait est-ce qu'elle est féministe ? Elle me dit non, elle est en sympathie avec évidemment cette parole qui se libère et les témoignages de victimes, mais c'est pas sa grille de lecture et elle trouve pour elle que c'est trop excessif. Voilà.
Alors, vous avez fait Sciences Po Grenoble,
oui.
Paul Sanfourche, que vous inspire cette vague de dénonciation du sexisme à Sciences Po et ce hashtag #SciencesPort ? Parce qu'on est au cœur de votre sujet.
Bah, beaucoup de bien, je dirais. En tout cas, le fait que la parole se libère, c'est vraiment nécessaire. C'est vrai dans les institutions scolaires, universitaires, dans les médias. Enfin voilà, c'est effectivement cette vague de fond là qui est en train d'emporter un peu tout sur son passage. Et il est effectivement, enfin, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a encore beaucoup de boulot.
Vous venez de Sciences Po Grenoble, vous avez quitté l'école quand ?
C'était en 2005.
Et est-ce que vous ressentiez cette culture sexiste telle qu'elle est dénoncée par certaines élèves ?
Mais je pense que je ne pouvais pas totalement m'en rendre compte parce que je ne suis pas une femme. Donc pour moi, ça aurait pu être... Enfin, cette violence-là, je ne l'ai pas vécue, moi, directement.
Ni ressentie ?
ni ressenti, et j'ai pas eu de témoignage en ce sens-là, mais je suis sûr qu'effectivement, encore une fois, c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus, et effectivement, c'est aux femmes qui ont été scolarisées là-bas.
C'est un peu à vous de vous exprimer là-dessus, vous avez fait Sciences Po et vous faites un livre consacré au sexisme.
Oui, j'entends, mais je veux dire, en tout cas, sur le témoignage, effectivement, c'est moi, je peux pas témoigner là-dessus. Là.
J'ai bien compris. Paul Sansfourche, Sexisme Story, c'est consacré à Loana Petrucciani, une enquête très fouillée, très profonde, et on apprend aussi beaucoup de choses sur l'univers des médias et de la télé. Il y a les coulisses qui sont racontées, même moi qui pensais connaître bien le sujet, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, c'est aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, on se retrouve avec Karine Bast-Régis. Elle présente les journaux de Télématin et elle est désormais joker du 20h de France 2. Elle sera ce soir à la présentation du JT à 20h. Elle nous en dira plus dans l'émission sur sa préparation. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Karine Bast-Régis.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, présentatrice des journaux sur France Télévisions, d'abord sur la chaîne Continue France Info, le canal 27, puis depuis cette saison, non, depuis un petit moment dans les journaux de Télématin, et après un remplacement imprévu et réussi, je me permets de le dire, d'Anne-Sophie Lapix, Laurent Guimier, le patron de l'info de France Télé, vous a désigné comme joker du 20h de France 2. Ce soir, vous serez aux commandes donc du 20h. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Petite parenthèse, d'abord en Martinique et en Guadeloupe, c'est aussi France Télé, donc ça c'était avant France Info en 2016. Dans quel état d'esprit ? Ben, je me sens très très bien, comme tous les jours j'ai envie de dire.
C'est pas une question anodine du tout, ni une question de pure politesse. Le sang-froid, la maîtrise de soi dans l'urgence, c'est l'une des qualités qu'on réclame des présentateurs, présentatrices, et vous dites que vous n'êtes pas sujette au stress.
C'est perçu comme étant une qualité, mais à vrai dire c'est ni une qualité ni un défaut d'être stressé ou zen. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui est en nous, qui fait qu'on est nous, et moi j'ai de la chance de ne pas être stressée, de ne pas être sujette au stress, mais je ne l'ai pas décidé, je ne me suis pas dit tiens, ce serait bien que tu gères ta pression, j'ai juste beaucoup
bien
de chance.
Ouais. Ça c'était avant que vous présentiez les journaux de 20h. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'avant de faire votre premier 20h, c'était lundi 19 octobre,
exact.
Vous avez quand même laissé paraître que vous étiez un peu tendu, vous aviez montré le mot que vous avez laissé sur votre bureau Anne-Sophie Lapix. Bonne chance Karine, si tu te poses des questions, n'hésite pas à m'appeler, vous avez tweeté, je vais sans doute l'appeler 100 fois.
Oui, évidemment, mais c'était une blague.
Vous ne l'avez pas appelé du tout.
Je découvre son mot, alors on échange Anne-Sophie et moi. Je découvre son mot ce jour-là, j'étais pas au courant véritablement, et ça me fait rire parce que je me dis, c'est hyper bienveillant de sa part de me dire ça, j'ai envie de lui dire un merci un peu public, entre guillemets, donc je tweete, et plutôt qu'un simple merci qui serait banal et pas très marrant, moi j'aime beaucoup rire, et donc j'écris ça, je vais l'appeler 100 fois jusqu'au bout, au bout du bout. Et puis ça se transforme en, voilà, Karine un peu stressée finalement avant l'heure, ça m'a fait sourire parce que c'est... Voilà, c'est marrant, mais en réalité...
En réalité, vous l'avez appelé 0 fois.
Tous ceux qui étaient... alors là, non, pas du tout. Et tous ceux qui étaient sur le plateau avec moi le jour J l'ont constaté. Oui.
C'est début novembre. Elle était partie aux États-Unis pour couvrir les élections américaines. Et puis, il y a 2 semaines, vous l'avez remplacée au pied levé. Elle n'avait aucun symptôme. Elle avait été testée positive au Covid-19. Est-ce qu'elle vous a regardé ? Est-ce qu'elle vous l'a dit ? Comment
oui,
s'est passé ?
Oui. Elle me regarde souvent. Elle me suit. Comme je vous ai dit, on échange. On s'entend très, très bien. On s'entendait déjà bien avant que je ne sois joker. Donc voilà, elle m'exprime sa fierté, elle est présente, elle m'accompagne, et ça aussi c'est une vraie chance, le relationnel et le fait qu'elle soit là pour moi, et je suis ravie, quoi. J'ai beaucoup beaucoup de chance de la voir et de remplacer quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui a de la bienveillance à mon égard.
Alors puisque vous parlez de remplacement, votre promotion fait suite à un jeu de chaises musicales. Mmh. Marie-Sophie Lacaro est partie sur TF1, c'est elle qui présentait le 13h, du coup c'est Julien Bugier qu'on connaît bien ici, qui était le joker du 20h en semaine, qui a pris le fauteuil du 13h sur France 2. Quand vous avez appris le départ de Marie-Sophie Lacaro pour TF1, vous avez pensé un temps que la place aurait pu être pour vous ?
Non, pas du tout. Alors là aussi ça a été transformé.
Bah alors, je l'ai lu.
Oui, non mais je sais, mais je lis comme vous hein, les articles, mais après vous non, comme moi ça vaut très bien comment
ils ont inventé Télépoche.
Non, c'est pas inventé, c'est juste que malheureusement un propos peut être perçu d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Donc non, j'ai jamais pensé que le poste était pour moi. De toute façon, jamais dans ma vie, je n'ai pensé qu'un poste, une émission, une édition était pour moi. Simplement, on m'appelle et effectivement, on me parle du 13h. Bon, ben, c'est pas pour toi parce qu'on a pris une autre décision. Et la seconde d'après, il est question du 20h. Donc je me suis pas dit, ah ben zut, c'est pas pour moi. Quand j'entends ça,
ouais.
Je me dis, bon ben, dommage, mais pas dommage dans le sens, je voulais, j'ai pas eu. Dommage, tiens, ben, si ça avait pu être le cas, ça aurait été bien. Mais ça dure une demi-seconde, parce que, justement, quelques jours avant, il y avait plusieurs articles qui évoquaient les potentiels repreneurs du fauteuil du trésor. Mais il n'y a pas du tout eu de déception, dans le sens où je ne m'étais pas positionné, ce n'était pas un désir exprimé, non, pas du tout.
Le trésor de TF1 en lieu et place de Jean-Pierre Pernaut, il y a beaucoup de gens d'autres chaînes qui ont postulé, est-ce que vous aussi ou est-ce que vous auriez pu le faire ?
Est-ce que j'aurais pu le faire ? Alors ça, c'est une bonne question.
Merci.
Mais je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire, je ne me suis pas posé la question. Mais après, ça me ressemble tellement pas. De me positionner,
d'appeler les gens,
de frapper aux portes et de dire je voudrais, ça me ressemble pas, et puis j'ai pas le temps de le faire, parce que là encore j'ai la chance d'avoir des opportunités qui s'enchaînent depuis 16 ans que je fais ce métier, et donc voilà, j'ai pas le temps d'aller frapper aux portes, et je suis ravie.
Karine Bass, Régis, je cherchais avec quoi j'allais enchaîner. Il y a plein d'angles rédactionnels autour de votre nom. On ne vous connaît pas encore. Alors, les journalistes se focalisent sur ce qui les intéresse. Par exemple, quand Michael Zoltobroda dresse votre portrait en novembre dernier, il raconte que les hôtesses de France Télévisions ne vous connaissent pas. Karine, comment ? Baste Régis, vous dites, et ça s'écrit comment ? Sauf que dès le 20 octobre, TV Mag nous apprend que les médias vous surnomment déjà KBR.
Oui, alors ça c'est vrai. Effectivement,
qui est votre surnom en régie.
On m'appelle facilement KBR. Moi, quand je signe un mail, un message, n'importe quoi, je signe KBR. C'est vachement plus simple. Mais il est vrai que mon nom, on ne le connaît pas forcément, ce qui n'est pas une tare, ce qui n'est pas un problème. Tant qu'on peut nous regarder, nous, les équipes mobilisées pour informer tous les jours sur France Télé, c'est tout ce qui compte, parce qu'on bosse, on est là pour le public, et c'est ce qui compte.
Et puis en général, la notoriété, ça finit par arriver. Et puis, ça va même plus loin. Dans Aujourd'hui en France, j'apprends que vous définissez vous-même comme une extraterrestre surnommée KBR. Et là, je me dis, mais pourquoi extraterrestre ?
Extraterrestre, c'est vrai que je me définis comme ça, mais on me définit de cette façon aussi, parce que effectivement, pas sujette au stress, j'arrive le matin, je me demande pas quelles étaient les audiences d'hier, j'ai un fonctionnement, c'est vrai, assez étrange dans ce milieu du PAF, je ne saurais pas le décrire, je ne saurais pas l'expliquer, le fait est que je suis à 100% moi-même, du matin au soir, à la maison, comme avec vous ici, comme devant une caméra pour présenter un JT, je suis juste foncièrement moi-même, j'adore mon boulot, je m'implique à fond, je suis hyper rigoureuse, mais alors pour autant, voilà, pour moi tout est simple, factuel, sans pression, et c'est vrai que ça détonne.
Vous n'avez pas regardé les scores des 4 soirs début février pendant lesquels vous aviez remplacé Anne-Sophie Lapix ?
Oui, je peux faire la réponse qui est attendue de moi, hein. Ou alors je peux faire la réponse de KBR, qui est non, c'est vrai, je ne regarde pas les audiences, ce n'est pas ma préoccupation. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas au fait qu'on nous regarde. Je vous disais à l'instant, tant qu'on nous regarde, parce qu'on bosse pour le téléspectateur, donc c'est important. Mais c'est vrai que non, je me réveille pas le matin en me disant « Ouh là 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 là, les audiences, j'espère qu'elles seront bonnes ». Non, ouais. c'est pas ma façon d'être.
Alors je vais vous le dire, vos 4 JT ont été suivis par une moyenne de 5,75 millions de téléspectateurs, 21,8% de part d'audience, c'est quasiment les scores d'Anne-Sophie Lapix, seulement une baisse de 0,7 points en moyenne. Donc je dis bravo, mais ça vous intéresse pas.
C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que là, spontanément, je me dis heureusement, vu comme l'équipe s'implique et travaille, vu comme on est à fond toute la journée, je me dis heureusement. C'est tout.
Évidemment, parce qu'un journal, c'est une équipe, comme une émission de radio. On va parler de votre carrière KBR. Vous restez avec nous, Culture Média continue. À tout de suite. En compagnie de Karine Baste-Régis, journaliste, présentatrice France Télévisions. Et je rappelle, vous serez ce soir aux commandes du 20h de France 2, car c'est vous désormais la joker d'Anne-Sophie Lapix.
Exact.
Vous avez passé le bac en Martinique.
Oui.
Direction l'ESRA à Nice, c'est une école
de réalisation audiovisuelle.
Puis vous êtes revenu aux Antilles, à RFO Martinique, comme JRI.
JRI, je faisais du montage également.
Donc JRI, journaliste reporter d'image, ça veut dire c'est le nouveau nom.
J'avais la grosse caméra à l'époque avec le gros pied, tout ça très très lourd.
La Betacam qui
j'allais tourner seul.
Betacam qui fait 11 kilos, c'est peut-être la meilleure formation, la formation sur le terrain. C'est vrai que le futur patron de la rédaction, Alain Petit, vous a lancé un jour des images, c'est de la merde.
Et je ne l'en remercierai jamais assez parce qu'en fait je suis très exigeante, très pointilleuse. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé à tourner en Martinique. Avant ça, j'avais tourné à Nice et je m'adaptais difficilement à la lumière, à la température de couleur. Et j'y arrivais pas, et tout le monde me disait « Mais non, c'est bon, t'inquiète, tu débutes, c'est normal. » Mais non, en fait, j'étais juste là pour bosser, je devais le faire correctement. C'est comme ça que je suis fondamentalement. Et lui a été le seul à oser me dire « C'est pas bon, en fait. » Et il s'est permis de me le dire comme ça, non pas parce qu'il parle mal aux gens, pas du tout, mais parce que voilà, on avait un rapport très, très franc, très spontané, et qu'il me l'a dit, et je lui ai dit « Merci Alain, tu me le diras plus jamais. » plus jamais. Et effectivement, on ne m'a plus jamais dit ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'en remercie. Et on parle très très bien jusqu'à maintenant tous les jours.
Vous êtes resté combien de temps à RFO Martinique ?
J'y suis resté jusqu'en 2004, me semble-t-il. Puis je suis parti en Guadeloupe, RFO Guadeloupe. Et je suis revenu ensuite en 2009.
Puis vous avez débarqué à France Info, je saute des étapes, la chaîne France Info, le canal 27. Vous y êtes resté 4 ans après avoir ouvert l'antenne. Et j'ai retrouvé vos déclarations de l'époque quand la présidente Delphine Ernotte avait lancé la chaîne. Elle nous a dit, dites-vous, qu'elle ne voulait pas de simples copies de ce qui existait déjà sur le marché des chaînes info. Elle nous a demandé, c'est là où c'est encore plus intéressant, de garder nos accents à l'antenne, de ne pas gommer nos identités.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai trouvé ça fort, dites-vous.
C'est vrai, parce que c'était l'un des premiers jours. Il y avait un peu tout le monde, là, en rédac, avec des journalistes qui venaient de régions ultramarines ou hexagonales. Et donc, voilà, quand elle nous dit ça, même si moi, je me sens parfaitement à l'aise avec ma façon d'être, mon accent et tout, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je me dis d'avoir la présidente de France Télé qui précise ce point et qui nous dit en substance, soyez vous-même. Voilà, elle nous donne une force supplémentaire, la force et le courage pour certains d'être nous-mêmes. Et je trouve que c'est merveilleux qu'elle ait prononcé ces quelques mots.
Votre accent, si vous ne me le dites pas, je n'entends pas que vous avez un accent.
Ah ben moi, je n'entends que ça. Je n'entends que ça.
Et votre identité, c'est laquelle ?
Ah, oulala, alors la vraie KBR, j'ai envie de dire, parce que c'est pas qu'on ne la voit pas intensément à l'antenne, c'est que à l'antenne, forcément, voilà, je suis maquillée, apprêtée, je suis dans un JT. Mais la vraie KBR, c'est quelqu'un de simple, en basket, spontané, toujours naturel, et voilà, qui s'intéresse à l'humain, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et voilà, c'est ça. KBR, Karine, c'est ça. Je suis comme ça.
Alors avec vous, c'est également la diversité qui a officiellement été mise en valeur. C'était l'un des engagements majeurs du deuxième mandat de Delphine Ernotte à la présidence de France Télé. Je rappelle qu'elle a été reconduite dans ses fonctions cet été. C'était une première. Est-ce que c'est une dimension qui vous réjouit parce que c'est une cause que vous croyez juste ou au contraire, ou en même temps, quelque chose qui vous agace un peu parce que ce n'est pas exclusivement votre compétence qui est mise en avant ?
Ah, moi, ça ne m'agace pas du tout parce que je me dis, à cette occasion, on peut me découvrir, eh bien, tant mieux, parce que ce qui compte avant tout, c'est que je sais bosser. Ce qui compte avant tout, c'est que j'ai de l'expérience, c'est que j'ai fait un million de choses. J'ai été sur le terrain, j'ai fait du mag, j'ai été gérée, comme vous l'avez dit, je gérais des bureaux toute seule à Saint-Martin, Saint-Barth, partout. Donc ça, peut-être qu'on ne l'aurait pas su s'il n'y avait pas cette démarche de la présidente, cette démarche de France Télévisions à destination de la diversité. Donc tant mieux si ça permet de me connaître aujourd'hui. On ne serait peut-être pas ensemble aujourd'hui en train de discuter, Philippe, s'il n'y avait pas cette démarche. Moi, ça ne me gêne pas du tout et je suis très lucide et mettons des mots sur les choses. Il y a comme mettant des mots sur les choses qu'on avancera et que les choses changeront. Donc allons-y, il n'y a pas de problème, moi ça ne me gêne pas.
Quand vous étiez présentatrice sur France Info, vous imaginiez faire ça à combien de temps ?
J'imaginais rien du tout parce que je vis au jour le jour et que voilà, tout va tellement vite pour moi. J'ai eu la chance de France Info, de Télématin, du 13h semaine, du 13h week-end, du 20h maintenant. J'ai fait le 12-13, j'ai fait le soir 3. Et voilà, tout va tellement vite et j'ai tellement de chance que j'ai pas le temps de penser à demain. Donc j'imaginais rien du tout.
L'école France Info, c'est une très bonne école parce que c'est une chaîne faite avec de petits moyens. Vous dites qu'il vous est tout arrivé. Le sujet qui part pas, l'invité qui plante et même un invité qui s'en va pendant une interview.
Alors j'ai dit il m'est tout arrivé, mais je parlais globalement effectivement.
Mais vous avez
Martinique,
eu ça
Guadeloupe, France Info,
vous
tout
avez eu
ça
l'invité
confondu.
Qui part pendant l'interview et l'invité qui part pas.
Et l'invité, mais oui, non mais j'ai tout eu. J'ai tout eu et... Ça, c'est la vraie vie. C'est juste normal d'avoir des gens qui ont des émotions, des instants T qui sont un peu tendus. Et tout ça, c'est la vraie vie.
Il y a quand même une différence. Je veux dire, comment ça se passe dans les grandes chaînes de télévision. Mm-hmm. Je ne veux pas dire que France Info est une petite chaîne, mais il y a des gens qui sont là pour booker, pour réserver, pour prendre pour faire venir les invités. Or, parfois, c'était vous qui invitiez vous-même vos invités.
Bah, c'est vrai que c'était un peu à flux tendu au début, parce que voilà, c'était une chaîne qui se lançait, comme vous disiez, avec peu de moyens. Et on était tous très impliqués dans la rédaction, on faisait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est challengeant et c'est vrai que c'est un gros, gros boulot. Et après, ça donne ce que ça donne, effectivement.
Et ça vous fait rire quand vous en parlez, vous aimez bien faire des blagues. C'était le cas à France Info, à Télématin, vous allez faire des blagues aux 20h ?
Quand je dis faire des blagues, c'est beaucoup dire, je ne suis pas du genre à raconter des blagues. Mais j'adore rire et c'est vrai que tout va être un motif à rigolade. Moi, j'adore ça.
Vous dites, petite confession, vous dites niveau humour, j'en suis resté aux inconnus.
C'est vrai.
C'est vrai.
Jusqu'à maintenant, je regarde les inconnus, j'éclate de rire, je pleure. Et voilà, ça me fait fondamentalement rigoler.
Petit clin d'œil pour vous, les inconnus, Pascal Légitimus.
Oui, excusez-moi, mais le journal de 13h,
On pourrait pas plutôt le faire à 16h de l'après-midi? Ok. Non, parce que là, je... Merci. À tout à l'heure. Hein.
À tout à l'heure.
C'est le journal, c'est le JT de Guadeloupe. C'est ouais, pas la Martinique, on se serait pas permis.
Non, mais voilà, ça me fait rire, ça me fait rire. Là, pour le coup, l'accent qui me réchauffe.
Merci beaucoup, Karine Basse-Régis. Vous serez ce soir aux commandes du 20h de France 2.
Et jusqu'à jeudi.
Merci d'avoir été avec nous et ce petit rire très, très plaisant. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. On va recevoir ensuite Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, notre invité, le chanteur Daniel Lévy, pour la sortie de son nouvel album Grâce à toi. Et puis dans les indispensables, un grand rassemblement de super-héros sont des comics et puis de la BD. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.